Bonjour à tous et bienvenue dans ce lieu de culte où, pour une année de plus, nous allons faire ce culte spécial Église persécutée. On reçoit tout un canevas à suivre et voilà, comme chaque année, j'ai suivi le canevas et essayé de vous donner ce récit, cette prédication qui m'a touché et j'espère que aussi elle vous touchera, que surtout que Dieu soit glorifié. Cette carte, la carte de la persécution, pour ceux qui ont déjà vu peut-être, chaque année, elle se rougit. Et c'est ce qui est décevant. Vous voyez, le rouge est l'extrême, l'orange un peu moins et le plus clair. Mais bon, nous, on est là-bas, dans notre coin. Là. Mais vous voyez aussi, on n'oublie pas Israël, qui est là, juste entouré de tout ce qui est rouge. Le dimanche de l'Église persécutée est un jour spécial dédié au soutien de nos frères et sœurs persécutés à travers le monde. Et il a pour objectif principal d'unir nos voix et nos prières, évidemment, pour les aider à tenir ferme. Alors, toutes les églises de France, de Belgique et cette année, de Luxembourg, pour nous inviter à participer en s'appuyant sur les ressources de Portes Ouvertes, qui, pour rappel, est un grand réseau de 25 associations en Europe, créé par Frère André, pour ceux qui connaissent, on a fait quelques livres aussi. Et c'est, voilà, vous voyez, la mission qu'il se donne, c'est faire en sorte que chaque chrétien persécuté pour sa foi ne soit pas oublié, mais soutenu dans tous ses besoins et partout dans le monde. Le dossier culte pour cette année, vous avez déjà vu, ça a déjà été affiché, « Rien ne nous séparera ». Et cette affirmation est basée sur le verset de Romains 8, 35 à 39, et peut s'entendre pour eux de deux façons. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. On connaît bien ce passage qu'on relira et que vous allez entendre plusieurs fois. Aujourd'hui, Romains 8 nous enseigne que la persécution et la souffrance sont normales pour le croyant. De temps en temps, on aimerait bien sauter ce passage, mais il est là. Et que bon, c'est parfois dans les difficultés que Dieu nous parle, mais rien. Rien ne nous séparera de son amour. Et deuxièmement, pour eux, rien ne nous séparera de nos frères et sœurs persécutés. Dieu responsabilise chaque chrétien à manifester son amour de manière très concrète autour de lui. Et nous sommes aussi appelés à être ses relais, à être ses relais d'amour de Dieu dans ce monde et notamment auprès des frères et sœurs persécutés. Nous, j'allais dire, on a la chance, on a la grâce d'être dans un pays relativement libre, mais il y en a que c'est pas possible. Et je vous invite à la prière. Père éternel, encore une fois, nous voulons nous mettre devant toi parce que c'est toi qui as la parole et qui as les paroles de la vie éternelle. C'est toi qui es notre tout, c'est toi qui nous as sauvés, c'est toi qui nous as libérés. Et nous voulons te rendre grâce pour notre liberté. Nous voulons aussi penser à tous ceux qui n'ont pas cette liberté physique d'être réunis, de parler de toi ouvertement. Mais peut-être qu'ils sont peut-être parfois plus libres que nous. Seigneur, encore une fois, nous voulons nous mettre à ton écoute, Seigneur, et mettre ce moment sous ta grâce, sous ton onction, demander vraiment de repartir, pas de la même manière que nous sommes arrivés, mais reboostés, avec tes yeux fixés sur toi, Père, au nom de Jésus. Amen. Et je vous invite à chanter ce chant avec toi, Seigneur, tous ensemble. Nous voici, venez, et sous ton amour, tu nous as. qui nous est donné est une occasion spéciale de vivre l'unité, non seulement entre nous, mais avec ceux qui sont opprimés. Comme vous voyez, plus de 365 millions de chrétiens sont persécutés. En 2020, ils étaient 260 millions, pardon. Ça augmente de plus en plus. Ils sont fortement, voilà, dans le monde entier, soit, selon les statistiques, un chrétien sur sept. Et ici, il demandait de mettre un peu dans l'église, en organisant ce culte, de mettre sept chaises, dont une condamnée, quoi, pour vraiment se rendre compte de ce que c'était. Mais ici, quoi, nous sommes une trentaine, au moins quatre personnes seraient persécutées. Donc, c'est atroce, je pense, ce que ces gens vivent. Mais voilà, ce culte est justement spécial pour attirer notre attention sur ceux qui vivent et certainement avoir le courage qu'ils ont et leur humilité, ils ont certainement quelque chose à nous apprendre. Je vous propose de regarder une vidéo.
Autour de minuit, les extrémistes foulanis sont arrivés avec de l'antorche, cherchant des gens à tuer. Mon frère a bloqué la porte pour les empêcher d'entrer. Ils lui ont tiré dessus à travers la porte. Les djihadistes nous ont allongés sur le sol et ils ont dit qu'ils allaient nous rassembler dans l'église, tout asperger d'essence et mettre le feu.
C'est là qu'ils ont tué ma femme. Elle portait notre fils de 9 mois sur le dos.
Mon mari dormait quand ils ont pénétré dans la maison. Ils l'ont abattu. Que vivent plus de 365 millions de chrétiens à travers le monde. Et ces dernières années, la violence extrême envers les chrétiens se concentre particulièrement en Afrique subsaharienne. 16,2 millions de chrétiens sont actuellement déplacés dans cette région du monde. Nous nous sommes rendus à la rencontre du pasteur Barnabas, dans un camp de déplacés de Beni, au Nigeria.
C'est ici que nous vivons. Dans un camp de déplacés interne. Ça fait environ 4 ans maintenant, presque ça. Tous les gens que vous voyez ici, nous sommes tous chrétiens. Et nous sommes déplacés à cause des violences. Nous pensons qu'ils sont contre les chrétiens. Lorsqu'ils viennent nous attaquer, ils nous appellent Kamari. Cela veut dire des sans-religions. Pour eux, nous sommes des moins que rien. Ils ciblent directement les chrétiens.
Barnabas a perdu l'un de ses frères et sa belle-sœur lors d'une attaque. Lui-même a été gravement blessé au bras. Il en garde des séquelles.
Dans ce camp, de nombreuses personnes sont affectées. Beaucoup sont blessés. Beaucoup ont été tués. Leurs proches ont été tués. Combien d'entre nous, rassemblés ici, ont fui à cause de l'attaque? Levez la main si vos enfants ne peuvent pas aller à l'école. Lorsqu'on a faim, on perd confiance en Dieu. Lorsqu'on est malade, on perd confiance en Dieu. Leur esprit était découragé de Dieu. Personne, à part, ne pourrait se rendre comme si nous avions été rejetés. posez-vous la question. Si votre frère était à terre, que feriez-vous? Si vous voyez votre mère en difficulté, que feriez-vous? Vous trouveriez sa témoin. Alors imaginez ce que ressent votre frère qui est là-bas. En tant que pasteur dans le camp, moi aussi je suis dépassé. Je n'ai rien à leur donner. Je ne peux que prier et partager la parole de Dieu avec eux. Jusqu'à présent, nos yeux sont tournés vers lui. Jusqu'à présent, notre espoir repose sur lui. Nous placons notre confiance en lui.
Dans la lettre aux Romains, l'apôtre Paul écrit à des chrétiens vivant dans le feu de la persécution. Il leur dit : qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce les épreuves, les angoisses, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou les armes ? Car il est écrit : c'est à cause de toi qu'on met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est cette promesse de notre Dieu qui anime nos frères et sœurs, alors qu'ils sont au cœur de la fournaise.
Nous prions qu'il est grand. Il agira. Il fera plus que ce que nous imaginons.
Petite vidéo vaut mieux qu'un long discours. Ce qui m'a étonné la première fois que j'ai vu cette vidéo dans mon bureau, est-ce que j'aurais su chanter « Tout va bien ». Et ça, c'est terrible. Enfin, c'est terrible. Bon, j'étais reboosté, évidemment, parce que c'est énorme. Mais est-ce que pour moi, dans mon petit bureau tranquille, où je suis dans un pays libre, est-ce que tout va bien ? Je vous propose de lire le psaume 116. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. J'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste, notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais « Je suis bien malheureux ». Je disais « Dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi. J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qu'il aime. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante, tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. Et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Et c'est ce que je vous propose de faire maintenant en chantant « Acclamez Dieu, gens du monde entier, louez notre Dieu, car tout va bien. » Oh. élever nos voix ensemble par des soupirs, par un chant, par une parole. Seigneur, encore une fois, nous voulons nous mettre devant toi et nous sommes persuadés que nous sommes en liaison avec nos frères persécutés. Ils prient pour nous, certainement, mais nous aussi, nous voulons prier pour eux, Seigneur, et les élever, parce qu'ils sont avec nous. Ce sont nos frères et sœurs. Ils font partie de ton Église, de ton épouse. En toute chose, Seigneur, qu'à toi revienne vraiment toute la gloire. Merci de nous faire grandir en toi. Amen. Seigneur, nous allons maintenant ouvrir ta parole, qu'elle soit pour nous un baume, mais qu'elle soit aussi un rebooster. Merci parce que tu vas nous parler, ta parole, elle est la vérité. Seigneur, merci. Parce que nous pouvons nous confier à toi, nous accaparer de tes promesses. Seigneur, ouvre notre cœur, les oreilles de notre cœur et fais taire tous les bruits dehors, pour que nos yeux ne soient concentrés que sur toi. Sur ton message, sur ce que tu as à nous dire. Dans le nom de Jésus. Amen. Comme je vous l'ai dit, la prédication, si vous avez partagé, n'a pas été écrite par moi, mais par l'opération Portes Ouvertes, et je vous la donne intégralement, sans n'avoir rien changé. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée ? De fait, il est écrit « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée et qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Il nous propose un plan tel qu'indiqué, bon, la réalité des souffrances que traversent les chrétiens. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Rien ne les séparera de notre amour. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. J'avoue que je le répète souvent, il faut vraiment bien se l'imprégner. La résilience de nombreux chrétiens faisant face à une intense persécution démontre la réalité de cette promesse extraordinaire qui nous est adressée, même dans les pires circonstances. L'amour de Dieu continue à nous atteindre et à nous garder en lui. Il propose de découvrir ensemble l'enseignement biblique concernant les frères et sœurs persécutés dans le monde. La souffrance fait partie intégrante de la vie du chrétien. Voilà ce qu'il nous dit depuis Abel jusqu'à l'apôtre Jean, en passant par les prophètes de l'Ancien Testament, Jésus et les premiers chrétiens, la persécution a toujours accompagné les croyants et ceux qui veulent plaire et servir à Dieu. Jésus explique la persécution par ses paroles. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, car vous seriez avec lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Jean 15, 19, 20. Voilà ce que Jésus nous dit déjà. On est déjà mis à la page. Hein. L'opposition que rencontrent les chrétiens n'est pas seulement due au hasard des difficultés de la vie ou des conflits qui secouent notre planète. Elle vient d'une haine que le monde développe à propos de Dieu. Pour son Fils, évidemment, par conséquence, pour ses enfants. Nous sommes traités de la même manière que notre Seigneur l'a été. Et la Bible nous révèle que l'origine est un combat spirituel. Vous connaissez tous Éphésiens 6, on doit se battre. Alors, n'avons-nous pas, chacun d'entre nous, déjà expérimenté de graves épreuves? On a eu des sombres moments, on a passé par là, la vallée de l'ombre de la mort. Même directement, si en Belgique, ici, il ne s'agit pas d'une persécution directe, mais les épreuves sont là. Deuxièmement, cette souffrance peut aller jusque la mort. Dans les premiers siècles, les chrétiens étaient exposés à une féroce persécution et nombre d'entre eux sont morts en martyrs. Encore maintenant, on repasse le film avec les gladiateurs, et bon, ça ne nous rappelle pas de très bons souvenirs, hélas. Et la Bible nous en présente plusieurs. Donc Jacques, l'un des trois les plus proches de Jésus, mourut dans les premières années de l'Église, on peut lire ça dans Acte 12. À cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter les membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. L'opposition à Dieu et à ses enfants est omniprésente dans la Bible. Elle l'est aussi fortement, logiquement, dans l'histoire passée et présente de l'Église. De nos jours encore, dans de nombreuses régions du monde, les chrétiens font face à des menaces et des actions semblables. On a entendu les témoignages. Et le témoignage de Jérôme, qui est un chrétien qui vit dans un champ de personnes déplacées, on l'a vu, dans une ville de province du Nord, Kivu, nous dit « Jérôme a dû tout quitter à cause des violences orchestrées par les forces démocratiques alliées ». Je me suis arrêté sur cette chose qui marque « forces démocratiques alliées ». Je n'ai pas vraiment trouvé de la démocratie là-dedans, mais bon. Et alors, c'est un groupe extrémiste lié à l'État islamique. Et voilà ce qu'il nous dit. J'ai fui parce que les membres de la fameuse force démocratique alliée avaient tué mon fils. Toute la récolte qui avait été dans la maison avait été brûlée, et de nombreux civils avaient été tués, même sa moto, il n'avait plus rien du tout, à cause de cette force démocratique. Le pasteur Barnabas, on a eu son témoignage aussi, du Nigeria, a été brutalement attaqué par des militants Pulse, un groupe d'extrémistes islamiques, responsable de nombreuses attaques violentes dans le centre et le nord de son pays. Il nous dit, voilà, j'étais à la ferme avec mon frère Evrent et sa femme Fridé, se souvient Barnabas. Nous avons entendu les coups de feu et vu des gens courir dans différentes directions. Nous ne savions pas que les militants nous avaient encerclés. Certains étaient venus avec des armes à feu, d'autres avec des machettes, d'autres encore avec des bâtons. Tragiquement, Evren et Fridé n'ont pas pu échapper à leurs persécuteurs. Ça faisait presque 5 ans, mais la douleur est encore vive pour le pasteur Barnabas. Mon frère a été abattu par les militants et la femme de mon frère a également été touchée, puis tuée à la machette, explique-t-il. C'est des détails qu'on ne devrait pas entendre, mais j'ai voulu laisser intégralement ce qui est indiqué. Barnabas n'a pu s'échapper pour aider son frère et sa belle-sœur, ni même pour récupérer leur corps. Il a dû fuir. Alors qu'il fouillait, l'un des militants l'a frappé avec un bâton et lui a gravement cassé la main. L'agression a causé des blessures à long terme, bien qu'il ait réussi à rassembler suffisamment d'argent pour payer une première opération. Barnabas n'a pas le moyen de faire enlever le métal resté dans sa main, qu'il ne peut donc pas utiliser normalement. C'est un rappel quotidien de l'horreur qu'il a vécue. Comme il a dit dans sa vidéo, cette souffrance peut conduire au doute. L'épreuve de la persécution peut amener les chrétiens à douter parfois de l'amour inconditionnel de Dieu. Et voilà ce qui est un témoignage qu'il nous dit. La faim vous fait perdre confiance en Dieu. Si vous êtes malade, si vous êtes faible, vous risquez aussi de perdre votre confiance en Dieu. C'est le pasteur Barnabas qu'on a déjà entendu dans la vidéo qui dit ça. C'est un pasteur. Il dit oui, on peut douter. On peut douter. La foi affaibli, explique Jérôme, les gens ne pensent plus à aller à l'église. Il est difficile d'éduquer nos enfants. Lorsque l'enfant voit que vous n'avez pas la capacité de l'aider, il devient orgueilleux et s'arrête d'écouter. Jérôme voit les jeunes fumer de la marijuana et les disparaître pendant plusieurs jours. Il constate aussi que la misère se traduit par de nombreuses grossesses chez les adolescents. Quel désastre. Le pasteur Palunku, responsable de l'église d'Oshia, va dans le même sens. Le désespoir conduit les gens vers les religions traditionnelles. Comme ça, on est tranquille. Les personnes déplacées basent leur choix sur des pouvoirs obscurs qui promettent protection. Cela a un impact négatif immédiat sur leur marche chrétienne. Préfèrent se vouer à autre chose que de rester chrétien. Parfois, on se dit, on ne peut pas comprendre, mais dans cet état-là, qu'est-ce que nous, on aurait fait ? En Belgique ou en France, nous sommes beaucoup moins exposés que nos frères et sœurs, mais nous traversons nous aussi nos épreuves. Et ces épreuves peuvent également amener à douter parfois de l'amour de Dieu, parfois quand c'est trop long. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais je me dis, encore un peu de temps, le verset qui nous dit ça, encore un peu de temps, vous serez éprouvés. Le peu de temps pour Dieu, un jour est comme 1000 ans parfois. Et pour nous, ça peut être long. Et parfois, le doute s'installe. Alors, est-ce qu'on doit laisser refroidir notre foi ou est-ce qu'on doit se rebooster ? Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Voilà ce que la Bible affirme, que l'amour de Dieu repose sur nous-mêmes, même dans les pires souffrances, même dans les pires persécutions. Et il répète encore une fois, qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ? La tribulation ou l'angoisse. Si on est en Belgique, la persécution, ça vient après. Ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Cette affirmation peut sembler paradoxale. Mais découvrons ensemble comment se concrétise l'amour de Dieu pour son peuple souffrant. Dieu accorde la victoire dans l'épreuve. Paul ne considère pas la survenue des épreuves comme un échec ou comme une défaite pour le croyant, mais bien au contraire, il confirme que dans toute chose, nous sommes plus que vainqueurs. Toute chose, nous sommes plus que vainqueurs. Une manifestation de l'amour de Dieu est donc de nous accorder la victoire dans l'épreuve. On est dans l'épreuve, on a la victoire. Mais que signifie avoir la victoire ? Si on lit Hébreux 11, la liste est nombreuse des personnes ayant obtenu la victoire, les héros de la foi. Et cette liste montre clairement deux manières d'être victorieux. Éliminer ou échapper à la persécution, ou rester fidèle dans la persécution. Jésus n'a pas dit qu'il viendrait éliminer la souffrance. Il a dit « Je vous accompagnerai ». Cette réalité que vivent aujourd'hui nos frères et sœurs persécutés, c'est une réalité qui nous concerne aussi lorsque nous traversons des combats et des épreuves. Et frère André de la Fondation Mission Porte Ouverte nous dit « La sécurité n'est pas un enjeu de la mission confiée aux disciples ». J'ai dû relire deux fois la phrase. La sécurité n'est pas un enjeu de la mission confiée aux disciples. Donc si vous êtes disciple, si vous voulez faire quelque chose, il ne faut pas s'occuper de sa sécurité. Parfois, on fait tout un calcul, on va faire ça, on calcule. Notre assurance, c'est Dieu. Et il est normal pour tout chrétien de souffrir s'il veut travailler dans l'œuvre de Dieu. C'est sûr. On va être secoué. Il y en a un que ça ne plaît pas. Et être plus que vainqueur signifie d'abord rester fidèle dans les souffrances, comme Job, comme l'histoire de Job. Le triomphe de Christ n'a pas été obtenu par une démonstration de puissance, ni par l'absence de souffrance, mais par sa mort sur la croix. Christ nous accompagne. Et je vais mettre une phrase ici qui m'a fortement interpellé. C'est quelqu'un qui dit
« Dans certaines régions du Nigeria, aller à l'église, c'est comme voyager avec un billet aller simple. Il n'y a aucune certitude ou garantie de retour, mais les gens continuent d'aller à l'église. »
Un aller simple. Mais la promesse, c'est que Jésus est présent à côté de celui qui souffre avec lui. Dans le livre de Daniel, au chapitre 3, ça raconte l'histoire extraordinaire d'une persécution. Vous avez tous lu ça, hein, le roi Nebuchadnezzar qui exige que tous ses sujets se prosternent devant la statue d'or. Et alors trois hommes juifs refusent d'obéir au roi, et fou de rage, il les fait jeter vivants dans la fournaise, c'est les amis de Daniel. Et il constate ensuite que ces hommes ne sont pas atteints par les flammes, mais qu'il y a un quatrième homme qui, selon les termes de la Bible, ressemble à un fils de Dieu. Jésus est là. Et un peu plus tard, environ 600 ans plus tard, le diacre d'Étienne, vous connaissez tous, est lapidé pour avoir dénoncé l'incrédulité et la méchanceté des Juifs. Il s'exclame peu avant de mourir, « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Voilà deux exemples de persécution extrême dont les issues sont radicalement opposées. Dans le premier, les hommes sont miraculeusement sauvés. Dans le second, meurt le premier martyr de l'Église. Il y a quand même un point commun extrêmement significatif dans ces deux histoires. Dieu était présent à côté de ses enfants, persécutés au moment suprême. À l'extrême, Dieu est là. Jésus est là. Alors de nos jours, encore de nombreux chrétiens persécutés témoignent avoir vécu une proximité extraordinaire avec leur Seigneur dans les moments les plus difficiles de leur vie. Et c'est le pasteur Wang Mingdao qui est sorti de prison après 20 années passées dans les géoles chinoises et il déclare « J'ai vécu une lune de miel avec Jésus ». J'ai trouvé cette phrase extraordinaire. Il passe 20 ans en prison, il a vécu une lune de miel avec Jésus. Et de la même manière, sachons chercher auprès du Seigneur dans l'intimité de notre rencontre quotidienne avec lui, l'amour qui nous permet de rester debout chaque jour. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie qui est ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu 6, 6. Point numéro 3. La joie de souffrir pour Christ. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la Bible rapporte de nombreux témoignages de personnes qui ont éprouvé une sincère joie parce qu'ils souffrent pour le Seigneur. Après avoir été fouettés, les apôtres quittèrent le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Acte 5, 41. Ils étaient frappés et dit « Ouais, chouette !» Pour le nom de Jésus. Pierre explique aussi dans sa première épître que si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Quelle promesse! Cette réalité est difficilement explicable. Mais lorsque nous prenons position pour Dieu, ou souffrons par motif de conscience envers Dieu, une joie divine qui dépasse l'entendement peut nous envahir, dont la douceur et la beauté dépassent les souffrances endurées. N'est-ce pas une preuve merveilleuse de l'amour de Dieu, de tous ceux qui souffrent? Soyons nous-mêmes de ces chrétiens courageux et déterminés, ceux qui nous disent ça, qui choisissent d'honorer leur Seigneur en toutes circonstances. C'est vrai, c'est pas facile. Quatrièmement, la promesse de la vie éternelle. L'amour de Dieu se manifeste également pour tout chrétien par la promesse de la vie éternelle. Cette certitude est comme une ancre qui ne peut nous être arrachée par aucun moyen, ni aucune puissance de ce monde. Elle nous est garantie par Dieu en Jésus-Christ. Ça, c'est notre sécurité. La persécution amène le chrétien à envisager son avenir à long terme. Il regarde au-delà de la mort et saisit par la foi la réalité de l'éternité. Je suppose que dans un camp comme ça, où du jour au lendemain, on peut se retrouver face à Dieu, ben, on n'a qu'un espoir. C'est peut-être pas simplement de vivre ici, mais de vivre dans l'éternité. Voilà ce que nous déclare un chrétien de là-bas, Burkina Faso. Dans la Bible, je vois que tous les guerriers ont rencontré des difficultés. C'est mon tour aujourd'hui. Il est important de se souvenir que la souffrance n'est jamais éternelle. Mais Jésus est éternel. J'ai trouvé ça beau, parce qu'à un certain moment, la souffrance va s'arrêter. La mort va terminer. Mais Jésus, lui, est éternel. Paul, qui est prêt à donner sa vie pour Dieu à tout moment, nous explique pourquoi. Si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi que nous vivions ou que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Ça, c'est notre promesse. La persécution et l'épreuve nous amènent, comme Sauvé et Paul, à prendre de la hauteur, à considérer notre existence éternelle, à voir au-delà de la mort. Cette perspective est un puissant appel de l'amour de Dieu qui nous accompagne plus loin que cette terre, au-delà du voile de la mort. Peut-être Dieu permet-il une épreuve ou une difficulté dans notre vie pour nous amener, nous aussi, à nous détacher des choses de la terre, à nous détacher des choses qui nous entourent, de ce monde, et à considérer ce qui est vraiment important aux yeux de Dieu. Et finalement, rien ne les séparera de notre amour. Nous sommes réjouis ensemble de la proximité avec ces enfants qui souffrent et de la fidélité à laquelle ils veillent sur eux. Mais la parole de Dieu nous enseigne aussi notre responsabilité à leur égard. Car l'amour de Dieu pour eux passe aussi par notre témoignage concret, par l'amour de leurs frères et sœurs manifestés au travers du corps de Christ. L'amour fraternel est un des moyens au travers desquels l'amour de Dieu se manifeste. Et cet amour se manifeste de manière concrète. Lorsque Jésus évoque le dernier jugement, il explique comment les hommes seront séparés en deux catégories. Alors le roi dira à ceux qui sont à ma droite, « Venez, vous êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Matthieu 25, 34, 36. Ces actions sont concrètes, consistant à répondre aux besoins vitaux des chrétiens les plus vulnérables. Ce sont la manifestation véritable de l'amour de Dieu en nous, pour eux. Et Jésus est tellement proche de ses enfants qu'il s'identifie à eux. Le bien que nous leur faisons, nous le faisons à Christ. Ce que vous avez fait d'entre eux, c'est à moi que vous l'avez fait. Quel honneur, mais en même temps, quelle responsabilité. Quelle responsabilité parce que l'évangile devient tangible. Ici, notre foi devient acte, prend forme visible et touche le corps et le cœur de nos frères persécutés. Frères et sœurs, bien sûr. Porte Ouverte a précisément pour mission de répondre à la faim et à la soif des chrétiens persécutés, de les habiller, les visiter et aller vers eux dans les camps. Et en conclusion, soyons, nous, l'expression de l'amour de Dieu pour les chrétiens persécutés. L'amour de Dieu n'abandonne jamais nos frères et sœurs persécutés, de même qu'il ne nous abandonne jamais non plus. Allons trouver en lui le réconfort et la force de traverser les épreuves en vainqueur par sa présence aimante, les promesses et l'espérance qu'il nous offre. Le Seigneur nous responsabilise ainsi sur ce qui advient de nos frères et sœurs de l'Église persécutée. Ils ont besoin de nous, de nos prières, de notre affection, de notre marque concrète d'amour et d'aide dans leurs difficultés quotidiennes. Défense légale et plaidoyer auprès des pouvoirs publics, aide d'urgence alimentaire et médicale, soins post-traumatiques, fourniture de Bibles et de littérature chrétienne, etc. Mais en toute chose, rien ne les séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ et rien ne les séparera de notre amour. Seigneur, encore une fois, nous voulons nous mettre devant toi, devant ces personnes, devant ces témoignages, devant ce que nous avons entendu, devant ta parole, devant tes conseils, de ne pas s'inquiéter, que notre sécurité, notre sûreté est en toi. Seigneur, nous puissions nous accaparer tout ça pour vivre ici, en Belgique peut-être, dans ce qu'on appelle un pays libre, mais en fonction de ta gloire uniquement, avec les yeux fixés sur Jésus, qui nous accompagne jour et jour. Amen.